garde aux voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment rebondir après l'échec ? Pour en parler, je reçois une Canadienne ultra gonflée et regonflée à bloc par ses échecs successifs. Bonjour Annabelle Roberts.
Bonjour.
Vous avez grandi dans une famille de 10 enfants, dans une communauté de Mormons assez coupée du monde. C'était pas gagné d'avance. Avec votre culture nord-américaine basée sur la confiance en soi et la communication, vous publiez une méthode pour la théorie de la veste. Transformer ses échecs en armes, rebondir, vous allez même plus loin, vous dites il faut solliciter les échecs pour apprendre. Alors ça, c'est vraiment très gonflé. En gros, il faut prendre des risques, aller au casse-pipe, comme on dit chez nous, pour aller plus loin ensuite. Et évidemment, ça mérite quand même une confrontation avec le réel. On attend vos témoignages et vos questions, les voisins et les voisines. Et moi aussi, j'ai beaucoup de questions à vous poser, Annabelle Roberts. Travail, famille, ça peut être l'entrepreneuriat, bien sûr, les relations amoureuses. Qu'est-ce que vous faites, les voisins et les voisines, de vos échecs? Vous les enfouissez sous le matelas ou bien quoi d'autre? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp pour nous appeler, pour nous poster des messages gratuitement. On donnera la parole également à un homme qui n'a jamais perdu l'espoir, James Barnor, photographe ghanéen de 90 ans. Il a connu une renommée internationale à partir de 80 ans, après des années d'échecs. Vous nous appelez 33 1 84 22 71 71 et dans quelques instants, je lis quelques-uns de vos messages. Sur Facebook, quels sont vos pires échecs? Qu'est-ce que vous en avez fait? Nadie, à Libreville, au Gabon, répond « Le chômage !» Cette période a failli me détruire et j'y suis encore. Je suis enseignante, vacataire de français, mais ma vision de l'échec a complètement changé. Pour moi, la vie est un tout et l'échec, les situations difficiles sont des mots nécessaires. Il faut juste apprendre à ne pas prendre sur soi, à rester silencieux, à observer. Il y a toujours une leçon à tirer et un message à saisir. C'est peut-être ça qui est le plus difficile, hein, quand même, finalement, la dernière étape. Brissa Yaoundé au Cameroun. Ma microstructure a brûlé dans un incendie la nuit du 26 décembre dernier. C'est tout récent. Je ne me remets pas aussi facilement de mes énormes pertes, mais je puise ma force et ma détermination dans le soutien moral de mes proches. Ils sont toujours là pour me rassurer, pour m'épauler. Et c'est grâce à eux que j'ai la force de vous écrire. Qu'est-ce qu'on peut dire à Brice, à Yaoundé, Annabelle Roberts? C'est dur quand même. Hein. Bah, Votre bureau brûle entièrement pour vous, là. Qu'est-ce que vous faites?
Bah, c'est quand même très, très dur. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire que c'est plus qu'une veste. C'est vraiment un échec. Mais dans le bouquin, je parle de quelque chose d'extrêmement important. Quand vous cherchez vos vestes, c'est ce qu'on appelle le paramètre mignon. Et peut-être c'est un peu gonflé, comme vous dites, de parler de mignon au moment où on a tout perdu, où notre structure a brûlé, où on est vraiment down, comme on dit dans mon anglais natal. Mais le paramètre mignon, en fait, c'est tout ce que vous faites pour que vous soyez, likable, comme on dit en anglais.
Qu'on ait envie de vous aimer, tout simplement. Hein.
Exact, parce que dans les moments où on est down, comment est-ce qu'on rebondit, comment est-ce qu'on devient plus up, comme on dit en anglais, c'est avec notre entourage. Ça me fait penser à quelque chose que les Américains font quand ils ont vraiment un échec ou une situation qui les heurte beaucoup. Vous savez qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de système de sécurité sociale, donc s'ils tombent malades, ils se trouvent avec des factures monstrueuses. Et ils font quelque chose sur un site web qui s'appelle GoFundMe, qui est en gros une plateforme où ils peuvent raconter leur histoire. Ouais. Et des gens qui trouvent leur histoire touchant ou qu'ils ont de la peine ou qu'ils ont envie d'aider cette personne peut donner quelques centimes ou quelques dollars ou même une centaine de dollars pour aider cette personne.
Et c'est ce qu'on pourrait conseiller à Brice. Hein. Finalement, c'est tout simplement lancer un message sur son Facebook, tout simplement en disant
de parler à son entourage, un petit coup de pouce, en disant que contribuez ce que vous pouvez et le jour où tout se passe bien à nouveau, je vous offre le coca dans ma boutique.
Ouais, exactement. Sylvestre au Cameroun également. Quand j'ai un échec, je me demande pourquoi j'ai échoué. Je change de méthode. Si mes échecs se poursuivent, j'abandonne, mais j'aurais quand même essayé. C'est ce que vous faites aussi.
Je trouve ça absolument génial. Je trouve qu'il a tout compris. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai cité dans le livre, qui est un monsieur qui s'appelle Ray Dalio, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Principe. Et Ray Dalio est considéré comme l'investisseur qui a réussi le plus dans l'histoire de la finance. Et lui, il dit tout le temps, douleur plus réflexion égale progrès. Et échouer, loser pour loser, c'est quand même la lose, on est d'accord ? C'est dans la méthode, la théorie de la veste, vous avez ce qu'on appelle votre copain ou votre copine de la lose. C'est la personne...
Avec qui vous perdez tout le temps.
Voilà, et qui vous soutient dans vos loses. Et elle a comme obligation, dans la manifeste de la lose, de vous aider à comprendre quelles étaient des leçons qui se cachait dans votre lose pour que vous puissiez rebondir plus fort et plus smart.
Oui, alors vous n'êtes pas une professionnelle non plus de la lose, comme vous dites, parce que vous avez monté votre boîte. On va en discuter avec vous, Annabelle Roberts. Et bien sûr, appelez-nous pour poser des questions à Annabelle Roberts, cette nord-américaine installée à Paris, et surtout pour nous parler de vos échecs. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Annabelle Roberts, vous êtes entrepreneuse aujourd'hui, canadienne installée en France, à Paris, depuis près de 10 ans. Déjà, ça va, les grèves, les manifestations, vous trouvez ça quoi ? Vivifiant, exotique, incompréhensible ?
C'est vrai que quand les Français font grève, c'est un moment où je me rends compte qu'on a vraiment deux cultures quand même. Qu'on a beau à partager le même langage, il y a tout un parti du Canada qui est francophone, mais ça reste quand même deux pays et deux cultures.
Ouais, vous prenez pas de risque, hein, là, en répondant ça. D'accord, vous publiez la théorie de la veste chez Flammarion, vous êtes fondatrice de l'agence Present Perfect, une agence de prise de parole en public. En fait, depuis votre enfance, vous prenez des risques.
On peut dire ça comme ça, oui. Donc, j'ai grandi dans une famille qu'on se rend compte plus tard, quand on est adulte, que notre famille n'est pas comme toutes les autres familles. Donc, j'étais l'aînée de 10 enfants. Ma famille, ils étaient des mormons, très croyants. On apprenait toujours que c'était la religion d'abord, ensuite la famille. Et ça n'a jamais été... Ça n'a jamais été ma tasse de thé, j'ai envie de dire. Je me souviens du moment où j'ai décidé que j'étais athée, qui n'était vraiment pas un mot qu'il fallait prononcer chez des mormons.
Incroyante, donc.
Ouais.
Et vous vivez dans un petit village d'Alberta.
C'est ça.
C'est le Grand Nord canadien. Ouais. Vous êtes dans un endroit où le premier hypermarché est à 220 kilomètres.
Mm-hmm. Donc, on habitait dans un village. Il avait un petit shoppie, un dépanneur, comme on dit en québécois, un petit Carrefour Market équivalent. Mais pour faire des grandes courses, et quand on a 10 enfants, il faut faire des grandes courses, il fallait conduire plus de 200 kilomètres pour y aller à Edmonton, pour rejoindre le hypermarché. C'était isolé, mais c'était quand même très beau. C'était au milieu du forêt, à côté des rocheuses, des couches de neige de 3 mètres. Ça peut être féerique.
Oui, parce que l'hiver dure 8 mois là-bas, vous dites.
L'hiver dure 8 mois, oui. Ouais,
c'est pas à Montréal. Hein.
Oui, c'est ça. Ici, à Paris, je suis en scooter parce que j'adore être n'importe où et j'ai besoin d'être dans 20 minutes. Et l'autre jour, j'étais sur mon scooter et j'ai pensé à la vie en scooter à l'Alberta. Ça durait à peu près 3 semaines parce que le temps ne se prête pas à ça.
Quelle influence a eu la télévision américaine pour que vous sortiez de ce cocon et en même temps de cet enfermement à la fois ?
Écoutez, j'ai envie de dire que on regardait pas beaucoup la télé, on n'avait pas le droit de regarder beaucoup la télé, mais moi j'appartiens à cette tranche d'âge de personnes et ça devrait être un expériment sociologique.
Vous avez quel âge aujourd'hui ?
J'ai 37 ans la semaine prochaine et j'ai connu le monde sans Internet et avec Internet. Et laissez-moi vous dire que c'était quand même une grande découverte et les heures que je passais dans la bibliothèque de mon lycée à lire, à découvrir, à voir sur Internet, c'était plutôt ça la grande découverte que la télévision américaine.
Comment ensuite vous êtes devenue entrepreneuse ?
Écoutez, moi je pense qu'il y a certains qui deviennent entrepreneurs et il y a d'autres qui sont nés entrepreneurs. Et moi je pense que je suis née entrepreneur parce que quelqu'un qui me dit quoi faire, comment le faire, à quelle heure je dois le faire, j'ai toujours très très mal supporté. C'est le début de ma rébellion, j'ai envie de dire, parce que Dieu, il me dit qu'il faut que je marie et que je fais autant d'enfants que le ciel me donne. C'était le début de la fin. Hein. Et donc, c'est au bout du troisième expérience professionnelle où mon patron, il se portait très mal que je lui dis comment faire tourner son business, où j'ai compris qu'il fallait que je sois entrepreneuse.
En France, alors vous, vous appelez ça la théorie de la veste, mais quand on vous lit, quand on vous écoute, Annabelle Roberts, on a une expression pour ça quand même qui concerne d'ailleurs surtout les femmes. On dit « elle est culottée, cette fille ». Et je me suis rendu compte d'ailleurs en employant ce mot que ça décrit les femmes qui prennent des risques, ça veut dire qu'elles ont des couilles. C'est quand même tout un problème aussi, d'ailleurs.
Ah bah pour moi, avoir des couilles, c'est pas un problème parce que c'est des couilles, comme vous dites, qui me permet de négocier fort, ce qui me permet de payer tous mes employés. Je vais dire que c'est très rare que les opportunités et la réussite et le succès va tomber sur votre tête. Et si c'est des couilles qu'il faut pour y aller le chercher, bah écoutez, je suis fière d'en avoir.
Théoriser l'échec, ce que les échecs nous apprennent, c'est quand même assez gonflé et culotté dans un pays comme la France, même si c'est en train de changer énormément parce qu'il y a une emprise du développement personnel partout dans le monde, et y compris en France. Mais nous, on n'est pas dans une culture qui aime l'échec, contrairement au continent nord-américain.
Mais là, il y a un vrai problème parce que si la France n'aime pas l'échec, ils n'aiment pas la réussite non plus. Parce que dès qu'on commence à bien gagner notre vie et on a réussi, il faut qu'on achète une maison au visiteur et on se cache derrière un grand mur parce qu'il faut surtout que personne voit la taille de notre maison ou de notre réussite. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin. Il y a tout un passage sur l'ambition parce que je trouve que l'ambition, c'est presque un péché dans ce pays. Et j'ai dit, mais pensez à la France sans ambition. J'ai dit que si Xavier Niel, il n'avait pas d'ambition, vous serez tous des pigeons aujourd'hui à payer 70 balles votre facture de téléphone.
Non, mais il y a l'ambition et puis il y a l'autre partie moins avouable et où, pour le coup, la France, la culture française est très critique. Ce sont les gens qui prennent en permanence des risques, qui sont très culottés, qui sont très gonflés. Et nous, on a cette expression que vous utilisez dans votre livre, mais je ne sais pas si vous la comprenez aussi bien que nous, Français. Vous dites « le ridicule ne tue pas ». Mm-hmm. Mais nous, cette phrase, chez nous, en France, c'est une phrase assassine quand même. Mm-hmm. Ces gens, elle est ridicule et elle ne s'en rend pas compte.
Mm-hmm. Et so what? J'ai dit, si je suis ridicule et je gagne très bien ma vie et je crois de 20% par an, écoutez, je vais être ridicule jusqu'à la banque. Hein. Et so what? J'ai envie de vous dire, so what? En France, une des raisons pour lesquelles j'ai monté mon entreprise, c'est que j'avais besoin de construire ma petite tribu des gens qui me rassemblent. J'adore la France. J'adore le fait que je peux accoucher d'un de mes trois enfants dans un hôpital public avec des technologies dernier cri et ne pas être obligée à payer 50 000 euros. J'adore que c'est le meilleur vin du monde, le meilleur fromage du monde. J'adore que les hommes sont si beaux dans ce pays. J'en suis mariée avec un Français. Mais ce que je n'aime pas, c'est... il faut que tout soit fait d'une certaine manière. C'est comme ça qu'on a toujours fait, donc c'est comme ça qu'il faut continuer à faire. J'ai été beaucoup critiquée pour la couverture de mon livre.
On va la montrer pour ceux qui regardent la vidéo de l'émission. C'est jaune canari. Hein.
J'ai dû battre avec certains gens pour publier parce que... Pourquoi ? Parce que c'est un bouquin qui est fun, qui fait du travail sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux. Parce que j'ai envie que ce bouquin vende, donc on a choisi une couleur qui va sauter en librairie, etc.
Ouais, on dirait, chez nous, ça fait bas de gamme, finalement. Parler de quelque chose, pour parler d'un sujet qui n'est pas bas de gamme. Comment utiliser l'échec comme une arme pour rebondir, c'est pas un petit sujet.
Et qui a dit que c'est du bas de gamme ? C'est-à-dire qu'on a mis un vernis sur le bouquin bouquin qui a augmenté le prix de l'impression de 20%. C'était encore une bataille qu'il fallait amener avec Flammarion. Mais encore une fois, j'ai écrit ce bouquin pour tous ceux qui se retrouvent dans mes paroles, c'est-à-dire que j'ai pas eu le parcours traditionnel qu'on puisse avoir en France, qui d'habitude les conditions de réussite, c'est-à-dire avoir une famille qui nous paye des cours de piano, équitation, etc.
Et ensuite, sortir d'une grande université ou d'une grande école pour la
c'est
France.
C'est ça. Et ensuite, faire un stage dans un cabinet de conseil et ensuite travailler dans une banque. Si vous savez que vous avez des intelligences, que ce soit des intelligences émotionnelles ou mathématiques ou musicales ou whatever, si vous, comme moi, vous pensez que vous êtes génial et les gens autour de vous ne comprennent pas, ce livre est pour vous.
Ouais. Alors ça c'est sûr, ce livre est pour tout le monde. En France quand même, ça bouge. Le mot impossible, c'est vrai, est un mot français, c'est ce qu'on vous répond toujours quand vous avez une idée géniale. Mais ça bouge, les cultures de l'échec s'installent, le marketing des perdants devient un truc très bankable. La preuve, c'est que l'émission américaine Shark Tank, qui veut dire littéralement le bassin des requins, est une émission qui s'est vendue dans le monde entier, y compris en France, et qui est traduite par « Qui veut être mon associé ?».
J'ai l'impression que c'est très important pour vous aujourd'hui ce qui va se passer.
Je vous avoue que je suis stressée.
On vous écoute.
Chers investisseurs, nous sommes ici pour vous présenter le premier vernis semi-permanent qui change de couleur à la demande.
D'accord.
Votre produit ne me fait pas rêver du tout.
Qu'est-ce qui va faire que vous faites la différence avec les autres?
Moi, je ne suis pas convaincu ni par les chiffres ni par le produit.
Ça va être compliqué.
Votre consultant design, il faut le mettre en prison.
Votre projet, il mérite d'être soutenu.
Vous êtes un phénomène.
Ça, c'est le génie français, ça.
Ce que vous avez fait, ça force le respect.
Je vous propose 120 000 euros.
Je peux prendre 75 000 euros.
Ah non, mais là, il va y avoir baston, là.
Voilà la version américaine, enfin la version française de l'émission américaine Shark Tank, Qui veut être mon associé, qui est diffusée sur la chaîne M6. Et d'ailleurs, vous avez voulu travailler avec eux, vous vous êtes pris une veste monumentale.
Ah mais c'était
Annabelle
carrément
Robert.
La loose, c'était carrément la loose. C'est un moment où j'ai su que cette émission allait venir en France. Je voulais absolument que ça soit moi qui coach ces entrepreneurs à pitcher, parce que c'est ça mon métier. Present Perfect est une société spécialisée dans la prise de parole en public et le pitch. Et on dirait que ça allait le faire. On était en discussion avec la société de production qui a produit cette superbe émission. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Et là, j'ai dit, waouh, ça, ce n'est pas possible. J'ai brainstormé des vestes à prendre avec mon équipe et on a décidé de tourner notre propre émission de Shark Tank dans nos locaux dans le 10e arrondissement de Paris pour expliquer à ceux qui produisaient l'émission que c'était absolument nous qu'il fallait. Et on l'a envoyé. Silence radio. Vraiment rien du tout. C'était la loose, c'était une veste. Mais c'est vraiment la preuve pour moi qu'il faut y aller au bout de sa loose. Parce que si après...
On vous dit non, vous continuez quoi. Au risque de harceler celui qui vous a
dit non. Non, une tentative de veste ne doit jamais, jamais abîmer votre réputation. Moi, au moment où j'ai envoyé cette vidéo, après que la dame m'a dit non, et je vois que c'était toujours un non, c'est ça ce que j'appelle y aller au bout de ma loose. Parce que comme ça, je ne suis pas frustrée. Je ne suis jamais en train de penser, mais et si jamais. Et aussi, à ce moment-là, si elle ne nous aime pas, après ce vidéo qu'on a tourné, qui a montré tout ce que nous sommes, c'est-à-dire funky, dynamique, etc., si elle n'aime toujours pas à ce moment-là, ça veut dire que nos destins ne sont pas liés. Nos valeurs ne sont pas les mêmes.
Ça, c'est ce que vous tirez de l'échec.
Et certains échecs, oui. C'est si vous allez au bout de votre loose et c'est vraiment non.
Ouais, c'est-à-dire que dans un premier temps, ça vous atteint et puis bon, vous passez à autre chose.
Et comme ça, vous pouvez savoir que c'était pas le destin.
Ouais, c'était pas le destin. Allez-vous nous appeler pour poser des questions à Annabelle Roberts et puis pour nous parler de vos échecs respectifs. Qu'est-ce que vous en avez appris? 33 1 84 22 71 71. Est-ce que l'échec peut être positif finalement? On pose la question à une auditrice qui on a en ligne. Non, c'est Kerry, un voisin qui nous appelle de Porto Novo au Bénin. Bonjour Kerry.
Bonjour Rafia, bonjour à toi.
Kerry, vous êtes un voisin béninois, vous êtes enseignant. Alors vous, c'est une histoire de déception amoureuse.
Oui, c'est bien ça.
Ouais, racontez-nous.
Bon, en fait, j'ai une relation avec une fille que j'aime très très bien. À un moment donné, j'étais parti au clash. Ça fait très mal. J'ai pensé au pire. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à tourner la page.
Comment vous avez fait?
Qu'est-ce que j'ai fait d'abord? J'ai essayé d'abord de faire le vide dans ma vie. J'ai coupé le pont avec elle. J'ai supprimé son numéro, le numéro de la famille, ses amis. J'ai emballé ses affaires que j'ai dans ma chambre. Tout ce qui m'est lié à elle, j'ai mis ça en cachette. Et puis voilà, je me confie à des amis comme Edith Sobor, une Camerounaise que j'ai saluée au passage. Mm-hmm. Et comme ça, je fais le vide et j'ai beaucoup prié. Mm-hmm. Et j'ai réussi à l'oublier. Et maintenant, je peux dire haut et fort que son amour n'a plus d'influence sur ma vie. Mm-hmm. Parce que j'en ai trop souffert.
Vous avez gagné sur cette partie-là, tourner la page. Mais qu'est-ce que vous avez appris de cette souffrance-là, Kerry?
Ce que j'ai appris de cette souffrance...
Pour la suite de votre vie sentimentale, par exemple. Hein.
Bon, la suite, c'est que quand vous êtes avec une fille, il ne faut pas mettre tout dans l'amour. Parce que quand vous aimez trop une fille... c'est comme si elle peut s'en servir comme une arme pour faire du mal ici. Ça ne tournait pas. Parce que si l'amour n'est pas réciproque, c'est de la merde. Parce que ça fait très très mal.
Annabelle Robert, ben, je vous ai vu lever les yeux au ciel, un peu dubitative hein, sur la suite, c'est-à-dire ne pas tout mettre dans l'amour, par exemple.
Ben, je pense que vous l'avez senti, quand on met tout dans l'amour, quand c'est bon, qu'est-ce que c'est bon? Mais si je pourrais vous donner un conseil, parce qu'on a beaucoup interviewé différentes personnes qui utilisaient la théorie de la veste dans leur vie sentimentale.
Oui, d'ailleurs, en français, hein, se prendre une veste, c'est quand même essentiellement dans le domaine de la drague. Hein.
Exact, c'est tout à fait vrai, Emmanuel. Eux, ce qu'ils ont dit, c'est que pour se relever et à nouveau y aller mettre, entre guillemets, sur le marché, ils ont dit ce qui était important, c'était de sentir à nouveau désirable. Et si vous voulez pratiquer la théorie de la veste pour à nouveau sentir désirable, ce que je vous conseille, c'est de définir quelque chose dans lequel vous avez envie d'être bon ou d'améliorer. Par exemple, certains se remettent au sport après une rupture, certains se mettent à fond dans la vie professionnelle, etc. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes sportif, vous êtes mince, vous êtes svelte, ou par exemple, vous êtes en train de réussir dans votre carrière, et bah, c'est surtout les autres qui vont toquer à votre porte, ce qui est bon pour le moral, n'est-ce pas?
Parce qu'on s'aime mieux aussi soi-même, peut-être.
Exact. Hein, Donc, utiliser la théorie de la pour éventuellement se mettre à fond dans sa carrière ou s'investir dans un nouveau club ou travailler sur vous.
Merci en tout cas, Kerry, de nous avoir téléphoné. Vous pouvez continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71 71, que ça concerne la famille, les relations amoureuses, mais aussi, bien sûr, votre carrière, votre business, si vous avez eu des difficultés avec votre entreprise. Appelez-nous 33 1 84 22 71 71. Annabelle Robert, vous dites finalement, vous, quand vous avez démarré votre business, votre agence de communication, le plus dur, c'est de partir de rien. Bon, forcément, parce que gagner le premier client. Mais moi, j'aurais quand même envie d'ajouter que est-ce que la peur de l'échec ne s'installe pas, au contraire, quand on a beaucoup à perdre, où on est beaucoup moins inconscient, finalement, beaucoup moins fou?
C'est une bonne façon de voir les choses. Écoutez, je ne suis pas encore à la stade de ma réussite où j'ai le condo à Miami et la yacht et le raison secondaire dans les montagnes.
Non, mais je ne parlais pas forcément beaucoup à perdre en termes d'argent d'ailleurs, mais ça y est, on est installé dans un job et finalement prendre des risques, c'est de plus en plus difficile une fois qu'on est installé.
Oui, mais il faut se dire que quand on pratique la théorie de la veste, quand on sait qu'à peu près 30% de ce qu'on était sûr sera une veste est en fait des opportunités. Quand on sait que le ridicule ne tue pas, que la veste ne tue pas, que la honte ne tue pas, figurez-vous que ça monte la confiance en soi. Et ça, on a réalisé des études pour le livre pour mesurer la confiance en soi de ceux qui pratiquent la théorie de la veste. Et en effet, ça augmente. Et une des questions qu'on pose chez Present Perfect quand on recrute un nouveau talent, c'est imaginer que demain, vous n'avez plus un centime dans votre compte, que vous allez perdre votre maison, vous avez besoin de gagner de l'argent très vite, dans 48 heures, pour que votre famille ne sera pas à la rue. Que ferez-vous ? Et la raison pour laquelle on pose cette question, c'est que, comme vous dites, même quand on a beaucoup réussi, etc., on peut toujours faire quelque chose pour être OK. J'ai dit, c'est quand même très, très rare que vous allez tout perdre. Et si vous savez que j'ai construit un empire, ou si c'est comme le monsieur qui a appelé tout à l'heure, même un microstructure, je l'ai fait une fois. Logiquement, je serai fort de mes erreurs que j'ai eues la première fois et de mes expériences, et je pourrai faire une deuxième fois.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On écoute un auditeur à Goma, en République démocratique du Congo, qui a posté sur notre WhatsApp.
Bonjour les voisins, bonjour les voisines. Je suis Emmanuel, je suis de Goma. Je suis un jeune entrepreneur. Moi, les sérieux problèmes que j'ai, que je prends comme mon échec, c'est le fait que je n'arrive pas à épargner. Le peu que je peux gagner à la fin du mois, aux alentours des 60, 70, 80 euros, j'arrive à les bousiller dans quelques jours. Ça, c'est le premier échec. J'aimerais recevoir des conseils. Comment faire une bonne gestion financière? La deuxième question est la suivante. Moi, j'ai les problèmes de réalisme. J'arrive pas à réaliser ce que je pense, ce que je prévois comme prévision. Mais quand je donne ce genre d'idées à d'autres personnes, les autres personnes réalisent ça et ils viennent me remercier. C'est là où réside ma question et mon inquiétude.
Ouais, ben quand même, se faire piquer ses bonnes idées par les autres, ça s'appelle quand même une sacrée veste. Hein.
Et ça arrive tout le temps. Et ça nous arrive chez Present Perfect, ça m'arrive à moi. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que...
Vous dites pas, mais c'est trop injuste.
Non, parce que ça va arriver. Et moi, ce que je dis quand ça m'arrive, c'est que, écoutez, prenez cette idée. Parce que si vous avez besoin de voler mes idées, vous devriez être dans une telle pénurie de créativité et d'idées. J'ai pitié pour vous. Donc prenez-la. Allez-y, je vous en donne. Parce que moi, je sais que je vais en avoir une centaine d'idées comme ça. Donc allez-y, piquez celle-là si vous êtes si dans le besoin.
Et pour son problème, son incapacité à épargner?
Bah, écoutez, le théorie de la veste, c'est un bouquin sur comment oser, etc. C'est pas un bouquin sur la gestion financière. Mais si je peux me permettre une petite commentaire, Emmanuel, ça sera que dans le business, on part du top line et on part du bottom line. Et moi, je suis plutôt une fille de top line, moi. Si il y a pas assez d'argent pour payer les salariés, etc., moi, j'y pense pas tout de suite aux économies. Je pense plutôt à comment je peux faire rentrer plus d'argent. Donc réfléchissez, Emmanuel, dans quoi vous êtes bon, dans quoi les gens ils vous connaissent pourquoi. Emmanuel, il est le plus fort, il est le plus drôle, il est le plus vite. Et ensuite, pensez à comment vous pouvez monétiser ça pour en gagner un petit peu plus d'argent.
Comme ça, il pourra continuer à dépenser.
Okay. Exact.
Merci à Emmanuel pour avoir posté ce message de Goma. On accueille Cyril Arnold qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Cyril Arnold, soyez le bienvenu chez 7 milliards de voisins.
Merci, bonjour Emmanuel et bonjour les visiteurs de RFI.
Bon, alors on va apprendre de vos échecs, racontez-nous.
D'accord, j'ai essuyé pas mal d'échecs dans ma vie. Parce qu'après les études secondaires, je me suis mis dans l'agriculture. Ça n'a pas fait long feu à cause de quelques problèmes communautaires. Et maintenant, je me suis mis dans la cuisine. J'étais restaurateur à domicile.
Oui.
Bon, et comme j'ai un problème de concentration, parce qu'il y a des heures pendant lesquelles je ne suis pas concentré, surtout à partir de 14 heures, j'ai eu pas mal de problèmes avec mes employeurs. J'ai préféré abandonner dans l'optique d'ouvrir mon propre restaurant.
Oui.
Ça n'a pas marché, faute de moyens financiers. Et après, je me suis mis dans le pressing, parce qu'actuellement, je fais dans le pressing,
oui.
Dans l'optique d'avoir mon propre restaurant. Maintenant, dans le pressing...
Un pressing, ça n'a rien à voir, hein, mais vous avez quand même pas digéré l'échec du restaurant. Donc, en attendant, vous avez monté un pressing, c'est ça?
Bien sûr, bien
d'accord,
sûr.
Oui.
Bien sûr.
Ok.
Dans l'optique de monter mon propre restaurant quand j'aurai plus de moyens.
Oui.
Voilà. Bon, maintenant, ma question est celle de savoir comment faire face à ces échecs, parce que ici, chez nous, en Afrique, on a tendance à minimiser les problèmes de psychologie, psychiatrique, tout ça. Vous dites que vous avez un problème, on minimise parce que le problème n'est pas visible, vous n'êtes pas malade visiblement, mais vous dites plutôt qu'il y a un problème de psychologie, qu'on ne vous comprend pas tout de suite.
Oui.
Donc mon problème, c'est de savoir comment être un peu plus réaliste dans ce que je fais et comment faire face à, des,
à vos difficultés, notamment vos difficultés de concentration après 14 heures, si j'ai bien compris. Hein. Faudra peut-être aussi en parler avec un médecin, parce qu'il y a peut-être des solutions à cela. Et en effet, est-ce que capitaliser sur ces échecs, ça veut dire aussi minimiser ce qui nous est arrivé ou pas? Quand vous nous dites « so what hein, », vous prononcez souvent cette phrase-là, Annabelle Roberts, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Arnold
Cyril ? Non ?
Ouais, Cyril Arnold, ouais.
Oui, donc moi déjà, j'ai envie de vous féliciter, monsieur. Bravo. J'ai juste envie de vous dire bravo, parce que déjà, toute cette résilience, c'est quand même incroyable. Dans un deuxième temps, on a la chance d'habiter une âge grâce à Internet où on peut voir tellement de profils de gens qui avant, ils étaient cachés. Et quand on voit qu'il y a des gens comme nous, par exemple, moi, j'ai un frère qui a des besoins spéciaux, j'ai une amie qui a des problèmes de concentration et qui ne peut pas travailler après 17 heures. Quand on voit qu'il y a des gens comme nous dans ce monde, bah, écoutez, ça normalise, entre guillemets, cette histoire. Donc, ce que je vais vous conseiller, ça prend un peu de courage, mais j'ai envie que vous avez ça éventuellement comme idée ou comme option, mais racontez votre histoire. Racontez votre histoire. Faites un vidéo de vous que vous mettez sur les réseaux sociaux en disant que voici ce que j'ai pu vivre, parce que les gens, ils disent, mais comment ça vous êtes malade? Vous avez tous vos jambes, vous avez tous vos bras, vous n'êtes pas malade. Et parlez du fait qu'on peut être malade, on peut avoir des besoins spéciaux ou des troubles de concentration ou sans que ça se voit.
C'est votre théorie de la vulnérabilité, finalement, qui devient aussi une arme dans la prise en compte de l'échec, c'est ça hein ?
Exact. C'est souvent... Bon, c'est raconter votre histoire et j'en suis sûre que vous allez trouver votre tribu. J'appelle ça le tribu. Ça veut dire que les gens qui ne sont pas dans votre fratrie ou dans votre famille, mais c'est les gens qui vous comprennent et qui ont envie de vous accompagner. L'autre chose aussi, j'en suis sûre que vous avez déjà pensé à ça, mais moi, mon repas préféré du jour, c'est quand même le petit déjeuner. Et donc, le traiteur qui arrive à se spécialiser dans le petit déjeuner et vous avez terminé votre journée à midi, voire 13 heures, peut-être ça sera quelque chose de sympa.
Et ben voilà,
vous.
Effectivement, une idée dans la restauration qui prendrait en compte vos difficultés, votre handicap, entre guillemets, Cyril Arnold. Hein, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, vous m'avez répondu. Je vais mettre ces idées en marche et puis je vous ferai un rapport le moment venu.
D'accord, merci. Très bonne journée à vous.
Bonne
à Douala.
Journée.
Merci à vous, Cyril.
Bonne journée à vous.
Et vous continuez de nous appeler, les voisins et les voisines. Comment rebondir après l'échec? Annabelle Roberts va même plus loin. Il faut vivre des échecs. Il faut s'obliger à vivre plusieurs échecs, voire même par semaine, se prendre des vestes pour pouvoir avancer. On va en discuter. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on donne la parole à une histoire pas banale.
7 milliards de voisins
et la planète sépare.
Je vous propose d'écouter Annabelle Roberts et les voisins et les voisines le témoignage d'un homme qui est désormais largement reconnu comme photographe, James Barnor. Il est né à Accra, au Ghana. Il a 90 ans et il a connu beaucoup d'échecs. On le considère aujourd'hui comme le pionnier de la photographie ghanéenne. Mais cette reconnaissance internationale n'est que très récente. Ses photos, ses portraits réalisés au Ghana et puis aussi en Angleterre ont commencé à être exposés dans des galeries, dans des musées, il y a seulement 10 ans. Donc il avait déjà 80 ans. Il est de passage à Paris pour travailler sur son fonds d'archives au sein de la galerie Clémentine de la Ferronnière. Et Charlie Dupion, notre reporter, a rencontré James Barnor. Il a accepté de raconter son parcours et ses difficultés par rapport au sujet de notre émission, rebondir après l'échec. Dès l'enfance d'ailleurs, ça a commencé quand il habitait chez son oncle à Accra.
Before becoming a photographer.
Avant de devenir photographe, j'étais à l'école et c'est là que l'échec a commencé dans ma vie. Je n'ai pas pu aller jusqu'au secondaire. Mais comme c'est à ce moment-là que j'ai choisi la photographie, disons que ça a un peu rattrapé cet échec. Un des enseignants de mon école m'a donné un appareil photo. J'ai commencé à jouer avec. Je viens d'une famille où plusieurs personnes étaient photographes. Il fallait que j'apprenne cet art. Et en 1957, je suis devenu apprenti auprès d'un photographe. J'ai commencé à rencontrer des gens, à les prendre en photo. Et puis, il y a eu ces premiers échecs. J'avais pourtant réussi à me créer une chambre noire sans lumière dans la chambre de ma tante pour y développer mes négatifs.
Et donc, vous avez commencé à faire vos portraits ?
Je capturais des portraits à l'extérieur. J'allais dehors, dans la rue, et je faisais asseoir les gens devant l'objectif.
Et c'était la photo en noir et blanc ?
Yes, mostly black and white.
Oui, en noir et blanc à l'époque. Et ça arrivait très souvent que je développe trop le négatif. Au Ghana, vous savez, il fait chaud. Alors la solution dans laquelle je plongeais ma pellicule était chaude. Donc il fallait faire attention à travailler dans un temps court pour ne pas laisser trop longtemps la pellicule dans cette solution. Sinon, je me retrouvais avec des négatifs tout noirs. J'ai fait beaucoup d'erreurs comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, quand je regarde mes anciens négatifs, je vois trop d'échecs, trop d'erreurs au moment du développement ou de l'exposition. Ça me rend vraiment honteux.
Même aujourd'hui.
Oui, en ce moment, nous parcourons tous les négatifs que j'ai gardés de toute ma vie. Et pour certains, on n'arrive même pas à voir ce qu'ils représentent. Et je me souviens, quand j'étais apprenti, l'appareil photo avec lequel on travaillait était gros. J'étais l'apprenti, c'était moi qui devais le porter. Alors un jour, quand je le portais, j'étais heureux, je bougeais beaucoup. Et ces mouvements ont cassé une des lentilles de l'appareil, un verre nécessaire pour la mise au point. On allait travailler à un mariage. Quand on est arrivé, l'appareil était cassé. Mais en fait, je n'ai pas assez d'espace dans ma tête, dans mon esprit, pour conserver le souvenir de tous mes échecs. Même s'ils m'aident à avancer, je les traverse et puis je les oublie.
Donc vous avez travaillé au Ghana, vous avez suivi toute la période qui a précédé l'indépendance, et ensuite vous êtes allé en Angleterre.
Oui, après 10 ans de photographie au Ghana, je me suis dit, allez, pourquoi ne pas partir à l'étranger pour apprendre et progresser ? Au début, quand je suis arrivé, personne ne me connaissait en tant que photographe. Impossible d'être embauché dans un studio, donc je suis allé travailler dans une usine qui fabriquait des pièces en caoutchouc. Ça a duré quelques mois. Ce n'était pas un échec en soi, mais c'était quelque chose qui était en deçà de mes attentes. Moi, je voulais photographier les gens. Finalement, j'ai obtenu une bourse pour m'inscrire dans une école de photographie. J'ai appris la photographie en couleur, j'ai appris à développer la pellicule et à faire des tirages en couleur. C'est cette photo en couleur qui m'a fait revenir au Ghana, pour être le premier à l'introduire là-bas. J'y ai ouvert un laboratoire de photos en couleur. Mais ensuite, je ne sais pas pourquoi, si c'était parce qu'il n'y avait pas d'emploi en tant que tel comme photographe, mais je n'ai pas réussi à gagner ma vie au Ghana. Après 20 ans passés à Accra, j'ai fini par repartir vivre à Londres. Mais là-bas non plus, je ne pouvais pas avoir de travail. Personne ne voulait de mes photographies, il fallait bien manger pourtant. Donc j'ai commencé à faire le ménage dans les écoles et à l'aéroport de Londres. Ça pendant 2 ou 3 ans.
Vous aviez 65 ans ?
Oui. Et puis un jour, j'ai eu la chance que quelqu'un du milieu de la photographie découvre mon travail et me demande « C'est vous qui avez pris ces photos ?»« Oui, c'est moi. » Et ça a commencé, ça a tout changé. Depuis, je dirais, 2008. Cela ne fait que s'améliorer.
Justement, vous venez en fait d'avoir une vraie reconnaissance internationale. Vous avez été exposé ces dernières années au Tate Moderne. Et ici aussi à Paris, vous avez été exposé au musée du Quai Branly.
Yes.
Comment vous vivez aujourd'hui cette reconnaissance de votre travail, de tous ces portraits que vous avez faits au Ghana, en Angleterre, qui arrivent assez tard ?
Ça arrive assez tard, oui, mais mieux vaut tard que jamais. Et finalement, ça m'a donné la chance de travailler toujours plus dur. Je n'ai pas vécu une vie de luxe et d'opulence, mais je me suis toujours dit que je pouvais y arriver, qu'il fallait essayer. Je ressens toujours du plaisir à dépasser mes échecs. Bon, ma vie personnelle, mon mariage, je vais le dire aussi, là, pour la première fois, ça a été un véritable échec. J'ai 8 enfants. Et comme mon esprit a toujours été tellement porté sur la photographie, j'ai échoué. J'ai échoué à m'en occuper suffisamment. Mais les mauvais côtés, les échecs, je tends à les oublier. Je me concentre sur ce qui me rend heureux et je me dis que si j'ai pu photographier le plus grand boxeur du monde, Mohamed Ali, alors ça veut dire que moi aussi, je suis génial.
Ah, d'ailleurs une photo du boxeur Mohamed Ali qui a été capturée en 1966 par James Barnor lors d'un combat. James Barnor, 90 ans, en novembre dernier, il a inauguré une rétrospective en son honneur au musée de la Fondation Nubuké à Accra et il sera exposé cet été à Londres dans les galeries Serpentine. C'est quand même une histoire assez incroyable.
Bah, c'est une belle
Annabelle
histoire.
Roberts.
C'est génial, c'est une belle histoire. Félicitations, monsieur.
Mais alors,
monsieur.
Vous ne dites pas qu'il faut oublier ses échecs, contrairement à lui.
Écoutez, c'est, tout le monde a leur propre manière à subir l'échec. Mais moi, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier ses échecs. Et moi, je pars même à la quête d'échecs. J'ai une quota de veste que je m'oblige tous les jours, donc 3 par jour et 2 le week-end. Et pourquoi est-ce que je fais ça?
3 prises de risque dont vous savez que de toute façon vous allez vous prendre un refus,
ouais,
ou quelque chose comme ça.
Je suis quasi sûre que ça va être non.
Avec votre agence.
Autant qu'entrepreneur,
dans votre recherche
qu'auteur.
De clients.
Recherche de clients, recherche de plateau radio, recherche de des choses qui pourraient m'aider et ma société et mes employés.
3
à
vestes
avancer.
Par jour.
Ouais.
Ça, c'est pour avancer.
Oui, et 2 le week-end.
Si on ne vit pas assez d'échecs, on n'avance pas.
Bah, moi, j'arrête pas de travailler tant que je n'ai pas pris 3 vestes. et
c'est une théorie qui est appliquée à toute votre équipe.
Oui, toute l'équipe a une quota de vestes. Le plus haut, ça doit être Thomas, qui est le directeur commercial, qui a un quota de vestes d'à peu près 40 par jour. Mais la commerce est un métier de veste de toute façon, donc c'est normal.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous avons Gladys qui nous appelle N'Djamena au Tchad au téléphone. Bonjour Gladys.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Gladys, vous êtes assistante de direction et vous avez dit au standard, vous avez connu des tonnes d'échecs.
Oui, effectivement.
Alors, comment vous faites? Quel genre d'échecs? Et puis, comment vous avez rebondi sur ces échecs?
J'ai connu des échecs scolaires, professionnels et le dernier au niveau entrepreneurial. C'est vrai, je me suis pris un bon coup. Et j'avais un restaurant dans lequel j'ai investi toute mon énergie, mon argent, mon temps. Mm-hmm. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de le fermer parce que ça n'allait pas.
Ouais.
Et j'ai eu des gens qui m'ont dit « Pourquoi tu le fermes maintenant? Il faut tenir un peu. » J'ai dit non, j'ai pris le temps de réfléchir. Et là, en une seule nuit, j'ai décidé que c'était bon. Mm-hmm. Et là, maintenant, c'est vrai que c'est un peu dur quand on investit de son temps et qu'après, il faut tout arrêter. Mais mon secret, c'est que quand je décide d'arrêter, le lendemain, je formate et mon cerveau et mon cœur. Je me dis, c'est arrivé, c'est bon, mais il faut se lever et se battre pour les autres jours. Mmh. Et c'est ça mon secret.
Et qu'est-ce que vous apprenez à partir de vos échecs? À chaque fois, vous faites le vide. Hein. Vous avez dit aussi que vous avez eu un accident de moto. Vous avez fait le vide dans votre tête. Vous avez connu des échecs également sentimentaux. Qu'est-ce qu'on fait qu'on passe à autre chose avec quelque chose en plus en soi, finalement?
Oui. Ce que je me dis souvent, ce qui me donne la force, c'est que il y a beaucoup de gens qui dépendent de moi. Et je dois me battre pour ces gens-là. Donc, souvent, je me bats sur ces obstacles. Je dis, si on retombe 2 fois dans le même péché, c'est que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut apprendre de ces leçons et avancer. Mais essayer de faire aussi le vide. Parce que si on reste là à ressasser tout ce qui se passe, on ne pourra jamais avancer.
Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, Annabelle Roberts, que nous dit Gladys? Merci en tout cas de votre appel, hein, Gladys.
Bah, moi, ça m'inspire le fait que des gens comme Gladys, c'est des gens qui font. Vous savez, il y a des gens dans cette vie qui réfléchissent plus qu'ils actent. Il y a des gens qui parlent plus qu'ils actent. Et ce que j'entends dans les peu de mots, les peu d'expériences que Gladys a pu partager avec nous, c'est que c'est quelqu'un qui fait. Et c'est mon expérience, et dans les recherches qu'on a fait dans la théorie de la veste, ceux qui font, comme le photographe dont on vient d'attendre son reportage, ils vont toujours arriver à un moment ou une autre. Parce que le monde appartient à ceux qui font. Donc même si votre ambition a changé, Gladys, et vous avez décidé de fermer votre entreprise parce que ce n'était plus le chose dans laquelle vous voulez investir vos efforts et vos temps, mais que vous avez des gens qui comptent sur vous, j'ai vraiment l'impression que vous êtes quelqu'un qui fait. Faire, c'est être. Et donc bravo, continue à faire et vous allez y arriver.
Gladys, merci à vous en tout cas. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. C'est quoi le projet suivant, là, maintenant, N'Djamena? Comment?
Campus Ngakos. Et ça serait un projet beaucoup plus intellectuel que de me retrouver parmi les marmites à la cuisine.
Ah, d'accord. Très bien. Bon, on vous souhaite bonne chance, en tout cas, pour toutes vos réalisations au Tchad. Merci de nous avoir téléphoné. J'aurais voulu lire aussi un message de Rachid, qui est en région parisienne, à Paris. Il est avocat. Il dit « On vit l'échec en fonction de son histoire personnelle. En prendre conscience aide à le surmonter. Un de mes clients a été viré à 50 ans après une vie professionnelle de succès. Il a mis un an à surmonter cette épreuve. » Ça tombe bien, demain, on va parler du chômage des seniors, justement, qui est un vrai problème en France, beaucoup moins d'ailleurs en Amérique du Nord.
Et c'est souvent une question que j'ai. Beaucoup de fois, on associe l'échec avec le chômage. Et quand il s'agit de sortir de son chômage en utilisant peut-être la théorie de la veste, qui est quand même de s'imposer un quota de veste qui n'abîme jamais votre réputation, qu'est-ce qui nous fait sortir du chômage? C'est parfois le réseau. C'est parfois le réseau dont on n'a pas encore, c'est-à-dire réfléchissez à des gens que vous aimeriez les connaître et ça pourrait éventuellement être une aide pour vous et faites une tentative de veste de les rejoindre. Envoyez-leur un message sur LinkedIn ou faites-leur un petit vidéo que vous les envoyez ou que vous les taguez dans les réseaux sociaux si vous n'avez pas leurs coordonnées. Ce n'est pas quelque chose qui va abîmer votre réputation, mais peut-être ils vous répondent.
Vous utilisez beaucoup l'humour, Annabelle Roberts, hein, quand vous essayez de démarcher des personnes avec qui vous avez envie de travailler, vous envoyez des espèces de petites bandes dessinées, des emojis, des petites vidéos. Mais il y a toujours beaucoup d'humour, ce qui veut dire aussi que c'est un peu pour vous protéger du ridicule, d'une certaine manière, pour montrer que vous avez aussi du recul sur votre démarche.
Ben, je ne dis pas que je me protège du ridicule, je dis que je baigne dedans. Donc, sachez que chez nous, chez Present Perfect, le auto-ridicule, c'est la troisième chose qu'il faut faire pour pratiquer la théorie de la veste. Il faut se donner un quota de veste, il faut avoir une copine de la loose pour vous féliciter dans vos looses et il faut se auto-ridiculiser parce que c'est Eleanor Roosevelt qui a dit que personne ne peut vous faire sentir inférieur sans que vous donnez vos consentements. Et donc, on pratique le yoga du rire chez nous. On fait des spectacles qui s'appellent le Mortified où on lit notre journal intime d'adolescents sur scène dans un théâtre parisien. Pourquoi? Parce que si vous connaissez vos faiblesses et vous êtes confortable avec la vulnérabilité, personne ne peut l'utiliser comme arme contre vous.
Une dernière question d'un auditeur qu'on n'arrive pas à joindre, qui nous a téléphoné, qui est en région parisienne, Eddie. Il nous dit « J'ai tellement peur de l'échec que dans ma vie professionnelle, c'est une catastrophe. J'avais un CDI, je n'ai pas réussi à dépasser les 3 mois d'essai, je suis au chômage. J'ai peur d'échouer, je voudrais des conseils. »
Avoir peur d'échouer, c'est un peu hard ce que je vais dire, mais c'est comme avoir peur de la mort. Tant qu'on a peur de la mort, on oublie de vivre, en fait. Et donc, tant qu'on a peur de l'échec, on oublie de courir après la réussite. Et donc, c'est pas la peine de se soucier des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et l'échec, on voit que ça ne tue pas. Et donc, ce que je conseille à Eddie, c'est de s'impliquer des petits échecs où il y a très, très bas d'enjeu. Des choses qui ne vont pas nuire à votre réputation, qui ne vont pas mettre en question vos finances, etc. pour que vous deveniez confortable avec ce sentiment de « j'ai échoué ». Et je suis toujours en vie et je suis toujours OK. De l'entraînement de la loose.
Merci à vous, Annabelle Roberts. On aimerait vous écouter encore pas mal de temps. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'échec qui conduit au succès. En tout cas, c'est votre cas, Annabelle Roberts. Vous avez publié La théorie de la veste, une méthode contre-intuitive pour transformer nos échecs en armes. Merci d'être passé chez 7 milliards de voisins, d'avoir écouté les voisins, les voisines et leurs questions et leur parcours.
Merci à vous, les voisins et les voisines.
Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Vous pouvez bien sûr écouter toutes nos émissions en podcast sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions. Et évidemment, nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Demain, 7 milliards de voisins, ça va rester difficile comme sujet. C'est l'emploi des seniors, justement, on en parlait. Comment travailler jusqu'à la retraite, jusqu'à l'âge pivot, un sujet au cœur de la réforme des retraites, alors que les entreprises, du moins en France, ne veulent pas faire travailler des gens de plus de 60 ans. On en discutera avec des spécialistes.
Vous les avez entendus.